Aujourd'hui donc, nous recevons Madame Geneviève Fraisse. Madame Geneviève Fraisse est directrice de recherche au CNRS, philosophe et historienne. Députée européenne depuis juin 1999, elle a été déléguée interministérielle aux droits des femmes de novembre 1997 à novembre 1998. Née le 7 octobre 1948 à Paris, elle est professeure de philosophie dans le Nord en 1974, fut ensuite détachée à l'Institut national de recherche pédagogique de 1977 à 1983. Elle entre au CNRS en 1983 et soutient sa thèse de doctorat sur la différence des sexes, recherche sur une forme de la connaissance à l'École des hautes études en sciences sociales. En 1997, elle est nommée directrice de recherche. Parallèlement à ses activités de recherche, Madame Geneviève Fraisse a été responsable du séminaire au Collège international de philosophie de 1984 à 1994 et chargée de conférences à l'EHESS. Pluridisciplinaire, ses travaux philosophiques portent sur l'histoire des représentations de la différence des sexes et la question politique de la légalité, de leur égalité. Pardon. Elle a écrit en 1979 « Femmes toutes mains, essai sur le service domestique pardon, au seuil », « Muse de la raison, démocratie et exclusion des femmes en France » en 1989, sortie chez Folio Gallimard en 1995, « La différence des sexes » au PUF en 1996, « Les femmes et leur histoire » chez Folio Gallimard en 1998. Ensuite, « Les deux gouvernements ou la famille et la cité, la démocratie en France » dirigée par Marc Sadoun chez Gallimard en janvier 2000. Et enfin, parmi les nombreuses publications, « Histoire des femmes en Occident », volume 4 sur le 19e siècle, collection dirigée par Georges Duby et Michel Perrault chez Plon en 1991. Madame Geneviève Fraisse, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Puisqu'on est ici dans l'Université de tous les savoirs, ce que je voudrais proposer à votre réflexion cet après-midi et à la discussion de tout à l'heure, c'est la question de savoir comment on peut, au fond, faire de la théorie sur cette affaire de la différence des sexes qui a pour problématique aujourd'hui la question de l'égalité des sexes, c'est-à-dire comment faire de la théorie politique. C'est pas si simple. Et c'est de ça dont je voudrais partir. C'est pas si simple parce que il suffit que vous pensiez les uns et les autres à la façon dont vous discutez du débat qui a eu lieu l'année dernière ou depuis 2 ans ou depuis un peu presque 10 ans sur la parité, vous rendre compte à quel point s'affrontent des opinions et règne ce primat de l'opinion sans toujours les connaissances qu'on souhaiterait pour établir cette discussion. Disons que pour faire de la théorie politique, à propos de la question des sexes, on se trouve d'abord et avant tout pris dans ces débats, disons, que j'aime bien, de café de commerce, mais qui parfois sortent des cafés. Tout le problème est là. Au fond, est-ce qu'on peut faire entrer du savoir dans la sphère de l'opinion, dans cette théorie politique, et faire entrer du savoir dans la sphère de l'opinion, c'est peut-être rééquilibrer quelque chose entre l'opinion et la vérité. Donc ce rapport entre opinion et vérité serait pour moi le fil conducteur des réflexions que je voudrais mener à partir de ce sujet d'aujourd'hui qui est égalité et pouvoir entre les sexes et à partir bien sûr de ce débat qui nous a tous agités sur la parité en politique et la parité en général depuis quelque temps. Alors, au fond, moi je dirais que nous sommes rentrés, rappelez-vous l'année dernière, à peu près à la même époque ou juste un peu avant, régnait des débats, notamment dans les médias, notamment dans les lieux de l'opinion, nombreux, concernant le pour et le contre de la parité. Et le fait le plus remarquable de ces débats, à mes yeux, était que énormément de femmes ont pris parti à ces débats. Et que dans cet énormément de femmes étaient en désaccord entre elles. Eh bien, pour ceux, quelques esprits chagrins, qui s'en sont étonnés et, qui s'en sont étonnés négativement, moi, j'ai toujours eu la réaction de me dire, ben voilà un bon signe de la démocratie. Nous sommes en désaccord, nous sommes suffisamment nombreuses pour être en désaccord. Donc nous sommes aujourd'hui dans cet espace de la controverse qui fait qu'il y a eu des désaccords entre les femmes, mais peut-être parce qu'un certain nombre de femmes, suffisamment de femmes, pas encore assez, pouvaient commencer à participer au débat public, à ce débat de la chose publique, de la res publica, où la citoyenneté, normalement, nous entraîne. Rappelons-nous un petit peu l'histoire.
Vous savez que le féminisme, comme mouvement collectif, est né au XIXe siècle, c'est-à-dire dans une sphère démocratique, en opposé à la sphère monarchique de l'ancien régime précédent. Mais on peut se rappeler aussi que depuis la Renaissance régnait ce qu'on appelle la querelle des amis, la querelle des sexes, qui au fond était une querelle de libelles, une querelle de petits textes, qui tous tournaient autour du fait de savoir qui de l'homme ou de la femme avait l'excellence, qui de l'homme ou de la femme était le meilleur, donc de la précellence ou de l'excellence du sexe féminin par rapport au sexe masculin ou inversement. Il y a eu un certain nombre d'opuscules. C'est ce qu'on appelle ce que j'appelle effectivement le temps de la querelle. Le temps de la querelle qui était un temps où on discutait du meilleur et du moins bon, des qualités, des défauts, bref, de la valeur d'un sexe par rapport à l'autre. De ce point de vue, la Révolution française a marqué une grande rupture. La Révolution française est celle qui dit il n'y a pas seulement une querelle entre les sexes, mais si la question des sexes intervient dans le champ politique, on a du mal. Je passe sur les détails, certains d'entre vous en savent sûrement un peu, d'autres moins, mais tant pis. La Révolution française lance quelques initiatives, mais peu. Mais disons qu'il se crée un espace qui est ce que j'appelle un espace de procédure, un espace où il va y avoir non plus l'évaluation des qualités et des défauts, mais reconnaissance qu'il pourrait y avoir une égalité, idée qui, bien sûr, remonte à l'Antiquité d'une part, est renouvelée depuis le XVIIe siècle d'autre part, mais cette idée de l'égalité devient comme une référence par rapport à quoi les textes vont se situer. Et on va dire quelle est la bonne ou la mauvaise égalité, mais ça sera le mot égalité qui sera important, et non plus les qualités de l'un ou de l'autre, mais ce référent égalité qui fait qu'on se situera juge et partie pour savoir, comme disait Poulain de la Barre dès le XVIIe siècle, les hommes sont jugés partis, mais les femmes aussi. Alors, lui a rétorqué deux siècles plus tard Simone de Beauvoir. Disons que les sexes vont se trouver jugés partis, pris dans cette vaste procédure que moi j'appelle un impossible procès, car faire le procès de l'inégalité et produire de l'égalité, c'est pas si simple. Mais en tout cas, se met en place ces positions d'avocat ou de juge que les uns et les autres auront pour défendre cette notion d'égalité entre les sexes. Nous sommes entrés dans l'ère de la démocratie avec la rupture de la Révolution française. Ça, c'est le deuxième temps. C'est là-dessus, c'est sur cette base que naîtra le féminisme. Et c'est sur cette base que, je crois, nous sommes arrivés aujourd'hui, après deux siècles d'écoulement démocratique, à cet état de controverse où ce n'est pas seulement quelques pionnières et quelques figures d'avant-garde ou quelques grands mouvements collectifs qui peuvent porter la revendication des femmes, mais des individus singuliers suffisamment nombreux, comme je le disais d'entrée de jeu. Voilà donc, et nous discutons dans cette controverse, ça sera ça le sens de ma conférence aujourd'hui, nous discutons dans cette controverse, non plus sur le bien fondé de l'égalité, en démocratie, normalement nous sommes tous bien d'accord sur le fait que nous voulons produire de l'égalité, mais nous discutons sur les stratégies. Le débat d'aujourd'hui, malgré ses allures, et je vais y revenir, de grands débats philosophiques et de grands débats sur les principes, est un débat de stratégie. Puisque nous serions d'accord sur l'objectif, la question est de savoir comment faire pour accéder, produire l'égalité. Non pas que les éléments précédents, c'est-à-dire l'élément de la querelle, qui est le meilleur, aient disparu. Vous avez bien vu dans le débat d'aujourd'hui qu'on dit un moment ou l'autre, non, les femmes sont mieux pour ceci, non, les hommes sont mieux pour cela. Donc le débat sur la valeur continue son bonhomme de chemin entamé depuis plusieurs siècles. Non pas que nous ne serions pas non plus dans cet impossible procès, dans cette procédure des torts et des raisons et du pied à pied de « je vous démontrerai que là, il faut de l'égalité à cet endroit parce qu'il ne peut pas y en avoir, parce que là, vous êtes en train de produire de l'inégalité alors qu'on croit que c'est de l'égalité. » Je pense notamment à toute la sphère économique. C'est un débat très compliqué que je n'entamerai pas aujourd'hui non plus, qui est le débat économique, où là se pose la question de la mise en place de la procédure de la production de l'égalité, mais de ce troisième point qui est bien le comment de la stratégie et qui va être la question développée finalement dans les débats depuis l'année dernière. Ainsi, si vous voulez, vous avez deux choses dans ce débat sur la parité, c'est ce que je vais appeler les deux cercles de la controverse. Qui sont d'une, et dans ces deux cercles de controverse, on trouvera des deux façons le problème posé doublement. Il y a bien un objectif, cet objectif je l'appelle l'objectif de l'égalité. Il y a bien un objectif plus précis qui est l'objectif de la parité. Et puis il y a comment y arriver. Et à chaque fois, dans les deux cercles de la controverse, on va trouver les deux problématiques. Quelle est exactement la fin proposée, qui est bien l'égalité, mais alors sous une forme plus précise, le mot parité n'arrive pas là par hasard. Et d'autre part, quels sont les moyens qu'on se donne pour cela. C'est ce qui me permettra de régler un certain nombre de problèmes dits théoriques ou abstraits qui ont été soulevés dans cette controverse des dernières années. Et n'oubliez pas ce que je vous disais d'entrée de jeu, cette question des sexes, elle balance entre la dominante, qui est celle de l'opinion, c'est-à-dire d'arguments qui n'ont pas toujours d'autre valeur que celui qui la professe, que le sujet qui la professe, mais pas nécessairement qui sont alimentés par un savoir, ça peut être alimenté par des passions et par des affects, cette opinion, la balance entre l'opinion et la vérité, c'est-à-dire la possibilité que les éléments de savoir dont nous disposons aujourd'hui pour construire cette égalité entre les sexes puissent avoir un effet de vérité. Alors, premier cercle de la controverse. Il y a deux problèmes qui ont été soulevés, deux arguments qui ont été évoqués en général pour, disons, freiner le débat sur la parité, ou en tout cas pour qu'il n'aille pas aussi loin qu'il paraissait devoir aller. Le premier, c'est ce que j'appelle la naturalité du progrès. C'est, on ne comprend pas, pourquoi voulez-vous faire une loi? Pourquoi voulez-vous imposer des contraintes? Pourquoi voulez-vous voir fabriquer des quotas, expression pourtant peu en cours dans le débat sur la parité, alors que nous savons bien qu'il suffit d'attendre un peu. L'égalité est en train de se faire, vous voyez bien, elle est là, elle avance, c'est un mouvement, c'est le mouvement du progrès, c'est le mouvement de la démocratie, c'est ce que moi j'appelle la naturalité du progrès. Comme si, vous entendez bien mon ironie, le progrès était quelque chose de naturel. À la fin du XXe siècle, ou passé le XXe siècle, nous savons bien que le progrès n'est jamais naturel. Mais on dirait que pour ce qui est de la question des sexes, ou de la question de l'égalité des sexes, on a dans l'idée qu'au fond, il suffit de suivre le mouvement tranquillement, surtout sereinement, et pas passionnellement, et qu'à ce moment-là, les choses arriveront. À cela, j'ai toujours répondu, parce que je trouve ça étonnant, quand on fait un peu de théorie ou de philosophie politique, quand on pratique l'histoire politique, toujours un peu étonnant de penser que l'égalité se fabrique toute seule, qu'il suffirait d'attendre, qu'il suffirait d'être patient, que les choses de toute façon vont dans le bon sens. Rappelons-nous, qu'est-ce que c'est que la fabrique de la démocratie? Qu'est-ce que c'est que la fabrique de l'égalité? C'est tout simple. Moi, je n'ai qu'une phrase et qu'un seul exemple. C'est que l'égalité, ça se fabrique et ça se produit par des contraintes. Je ne connais pas de société qui ait produit de l'égalité entre les êtres, pas seulement de l'égalité entre les sexes, simplement, spontanément comme ça. Il faut toujours mettre de la contrainte. Il n'y a pas d'égalité sans contrainte. Et mon seul exemple que je prends en général est celui de l'école obligatoire il y a plus de 100 ans. Quand on a institué l'école obligatoire, on a forcé et des parents et des enfants à accepter l'école obligatoire pour les enfants. Ce n'est pas du tout un processus spontané et naturel. Et pourtant, on pourrait croire que l'accès au savoir, le plaisir du savoir, est quelque chose que naturellement l'humanité devrait se donner. On a contraint les êtres à aller à l'école et on a contraint les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Il n'y a pas d'égalité sans contrainte et je suis étonnée, je dirais, quand j'entends cet argument de naturalité du progrès, je suis étonnée au fond qu'il y ait comme une sorte de grande ignorance de l'histoire. On dirait que quand il s'agit de la question des sexes, on a tout d'un coup une sorte d'amnésie et on oublie les quelques connaissances historiques qu'on peut avoir sur des sujets voisins, comme celui que je viens de prendre de l'école, et on pense à ce moment-là dans des catégories différentes et beaucoup moins, diront, historicisées et beaucoup plus naturalisées. Mais pour moi, l'égalité, principe fondateur de la démocratie et de la République, ne saurait se passer de l'expérience historique que nous avons depuis 200 ans. Voilà pour le premier obstacle, ou dirons frein, dans le débat apporté à la question de la parité. Le second, c'est ce que j'appelle la sûreté de l'universel. L'argument que nous avons beaucoup entendu, c'est qu'au fond, l'universel, c'est indiscutable. Pourquoi discuter de l'universel? Pourquoi l'universalisme devrait-il être débattu? Pourquoi devrait-on pointer les défauts de l'universel? Tout le monde sait bien que l'universel est un principe de la même indivisible, inaliénable, etc., etc., et qu'il est donc inattaquable comme tel, et qu'il suffit de l'appliquer. Pour ma part, ce que je peux voir précisément dans les débats à l'Europe, hein, c'est que quand il y a toujours quelqu'un désormais pour dire à la commission femme du Parlement européen, écoutez, arrêtons de rappeler les grands principes de l'égalité des sexes, on sait très bien qu'ils ne suffisent pas de les appliquer et qu'il faut que nous trouvions d'autres moyens de faire de l'égalité que de dire qu'il faudra appliquer les principes. Eh bien oui, mais curieusement, on vous dit, l'universel existe, l'universel est la référence qui permet que hommes et femmes soient traités de la même façon. Si nous inscrivons le principe de la parité, si nous amenons le débat de la parité à son terme, si nous produisons de la parité, alors nous attaquons l'universel. Donc, d'un côté, on vous dit qu'il faut appliquer un principe, c'est tout simple. Vous voyez, c'est comme la naturalité du progrès de l'égalité. Pas de problème, c'est spontané. Et puis, d'autre part, on se fait plus menaçant, on vous dit attention, attention, danger. Il ne faut pas toucher à l'universel. Alors là, moi, j'ai toujours eu un argument en réponse à « il ne faut pas toucher à l'universel », sur un argument très simple, c'est « attendez, ceux qui disent qu'il ne faut pas toucher à l'universel, étiez-vous les mêmes qui, de 1848 à 1944, avaient eu le temps de nous dire que l'universel mentait, c'est-à-dire que le droit de vote était masculin ? Étiez-vous, quand vous étiez à l'école et que vous appreniez que le droit de vote avait été conquis en 1848, étiez-vous de ceux qui disaient « attention, non ». C'était seulement les hommes. Non. L'universel ment. Là encore, l'expérience historique le prouve. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire le bilan du XXe siècle avec des idées, je veux dire, aussi simples, je dirais aussi simplifiées, que dès qu'on parle des sexes, que de dire qu'il suffit d'appliquer le principe de l'universel. Alors, que l'universel soit concret, alors évidemment, il va falloir le remplir des couleurs de l'universel, peut-être, mais est-ce vraiment une atteinte à l'universel ? Que les sexes ne soient pas une catégorie comme les autres, c'est-à-dire pas une catégorie du tout. Ça, je vais y revenir dans la deuxième partie, mais ça me paraît tout aussi important. Au fond, moi, ce que je remarque, c'est que quand cette façon de brandir l'universel ressemblait fort, à mes yeux, à l'appel à une transcendance. Il y a une transcendance qui s'appelle l'universalisme, c'est-à-dire qui est évidemment neutre et abstrait, ce que, débat ouvert, bien sûr, je crois qu'il ne faut pas nier, mais le problème est de savoir si on peut introduire de la critique dans cette neutre et cette abstraction, et c'est ça que je vous propose. Et pour ceux qui ne souhaitent pas le faire et qui crient au danger au cas où on attaquerait ça, alors je crois qu'il faut leur dire « vous prenez l'universel pour une transcendance ». Je ne crois pas que d'avoir instauré l'universalisme dans la démocratie, cet été, rejouer la question de la transcendance. Je pense que nous pouvons avoir une transcendance terrestre c'est-à-dire un universel, et que cela suffit. Bref, dans les deux cas, l'appel à la naturalité du progrès comme l'appel à la sûreté de l'universel sont deux arguments que vous ne pouvez pas ne pas avoir entendus avoir vous-même peut-être eu la tentation d'émettre pour dire pourquoi ce débat sur la parité, pourquoi cette discussion, ce renouvellement des interrogations féministes à travers tout cela. Je vous ferai remarquer, pour avoir rapidement esquissé en tout cas la façon dont moi je répondais à ces deux arguments, d'une part que vous avez affaire à la discussion sur deux grands principes, l'égalité et l'universalité. C'est-à-dire que nous sommes au plus fort des interrogations philosophiques de la démocratie, avec la question de l'égalité et avec la question de l'universalité, mais que tout porte, et c'est ça l'intérêt, ce qui va me permettre de passer au deuxième cercle de la controverse, tout porte sur le fait que ce seraient des principes en dehors de l'histoire, et que pour ce qui est de la politique des sexes, c'est-à-dire de la réalisation de l'égalité entre les sexes, nous pourrions faire l'économie de l'expérience historique. Disons pour ma part que précisément l'intérêt d'une construction philosophique de la question de la différence des sexes, c'est de comprendre comment les éléments de l'histoire, les constructions historiques peuvent servir à une interrogation philosophique. Et c'est là où on s'aperçoit que ces éléments de l'histoire, ces éléments de la philosophie politique en général, de l'histoire politique en général, ont tout intérêt à être mis aussi dans le pot commun quand on discute de la question de l'égalité des sexes. Et qu'on ne fasse pas de l'égalité des sexes une question, somme toute, à part des autres problèmes d'égalité. Ça n'empêcherait pas, mais ça c'est une parenthèse que je m'autorise, ça n'empêcherait pas évidemment d'utiliser ce qui se passe du côté du rapport et de la bataille pour l'égalité des sexes dans d'autres combats pour l'égalité. Ça serait là encore un autre exposé. Alors, le premier cercle de la controverse, c'est celui qui a beaucoup nourri les journaux autour de ces deux grands principes égalité et universalité, sur lesquels je vais bien sûr revenir tout de suite, mais dans un deuxième style de cercle de controverse, c'est-à-dire non pas en prenant ces grands principes et en se demandant si on est pour, si on est contre, si c'est un danger, s'ils sont bien appliqués, et si ça peut se passer tout seul ou pas, mais en reprenant les éléments qui ont été ceux de la discussion telle qu'elle s'est menée depuis le début des années 90 entre un certain nombre d'acteurs, mais surtout d'actrices du politique, et qui ont discussion auxquelles j'ai eu la chance de participer, et qui ont affiné un petit peu nos controverses. Et dans ce deuxième cercle de la controverse, on va trouver les mêmes éléments de discussion, mais peut-être un peu plus précis. Alors, ce deuxième cercle de la controverse, je l'ai intitulé, ça serait à la fois l'outil et la contradiction. C'est-à-dire la question de l'outil. Depuis le début, je pense que cette affaire de stratégie est essentielle, de penser en termes de stratégie et de ne pas penser théoriquement sans penser la question de la stratégie, c'est-à-dire de les penser ensemble plutôt que séparément. Et puis, j'en viendrai aussi au problème de la contradiction. Alors, ça c'est... au fond, je ne vous ai pas encore donné une définition basique et simple de la parité. La parité a mis le doigt sur une chose, c'est sur le fait que les femmes étaient absentes des lieux de pouvoir. Partie du fait que les femmes étaient absentes des lieux du pouvoir politique, notamment de la représentation politique avec l'Assemblée nationale, mais aussi du point de vue au niveau du gouvernement. Et de manière générale, la parité est devenue le lieu de discuter l'absence des femmes de tout lieu de pouvoir et de voir quels étaient les remèdes pour changer cette situation. Ainsi, la parité, après, je dirais, deux siècles de combats démocratiques, féministes et républicains et aussi militants en général, c'est l'ultime affaire de l'égalité. Quand je dis l'ultime affaire de l'égalité, je veux dire deux choses. D'abord, le fait que le combat pour la parité n'est pas autre chose qu'un combat pour l'égalité. Vous l'avez entendu dans mon premier cercle de controverses, où je n'ai sans cesse remis les choses sur la question, sur le niveau de l'égalité. Je vous avais rappelé en introduction que cette égalité, elle prend vraiment forme de manière collective à partir de la Révolution française. Donc la parité, c'est un combat pour l'égalité. C'est un combat pour l'égalité. Après bien d'autres combats, j'ai rappelé l'accès au savoir pour tous, mais il y a eu l'accès au savoir pour les femmes, l'accès à l'emploi, l'accès à ce qu'on appelle les droits propres en langage politique, c'est-à-dire les droits du corps, lutte contre les violences, contraception, etc. Les droits du corps, les droits d'accès aux mêmes droits que les hommes, c'est-à-dire les droits de l'esprit et les droits du corps, pour faire du cartésianisme simple. Et nous arrivons, et c'est ça, c'est l'affaire ultime, le combat pour l'égalité, quand il se déclenche avec la parité, arrive à ce point ultime qui est « et les lieux de pouvoir ». Car c'est bien d'accéder à la citoyenneté en 44 et de voter en 45, dans d'autres pays avant, pour la plupart des pays que nous connaissons. C'est bien d'accéder à l'ensemble des professions, surtout depuis ces 30 et 40 dernières années. C'est bien d'avoir toute liberté de circuler, mais tant que les décisions ne seront pas prises de manière, dans un espace de mixité, j'emploie ce mot de mixité pour caractériser une situation de mélange des sexes, alors il y aura effectivement une difficulté à imaginer la progression de l'accès à l'égalité. Donc la parité, c'est... Nous en sommes arrivés là, donc on peut se dire un certain nombre d'autres combats ont été menés, si ce n'est gagné. Mener, ça ne veut pas dire gagner. Ça ne veut pas dire que l'égalité professionnelle est réalisée, ça ne veut pas dire que l'égal accès, et encore une fois, il n'y a pas que l'accès homme-femme, mais que l'égal accès homme-femme à tous les lieux je sais pas, qui améliorent l'humanité, qui sont d'accès à la dignité ou d'accès au savoir ou d'accès à des droits, quels qu'ils soient gagnés, mais ils ont été déclenchés. Et nous arrivons à cette affaire de la parité. Alors pourquoi la France, vous le savez, parce que la France est un des derniers pays d'Europe en matière de représentation politique, malgré le dernier gouvernement qui a multiplié quasiment par deux la représentation politique, malgré le nombre de femmes ministres. Nous restons, en termes de représentation politique à l'Assemblée nationale, toujours l'avant-dernier pays d'Europe, devant la Grèce, sauf que nous sommes passés de 5 à 10%, c'est tout. Mais tous les autres pays sont au-delà des 10%. Ça, c'est pour ce qui est du cas de la France. Donc, nous sommes bien donc, dans ce problème. Mais la parité, c'est l'ultime affaire de l'égalité. Et puis, c'est tout de suite autre chose. Pour ma part, dès les débuts de ce débat, c'est ce qui m'est apparu. La parité, c'est désigner tout lieu de pouvoir où les femmes sont absentes, parce que ce qu'on peut souhaiter, effectivement, c'est que les affaires de la cité soient décidées à parité des sexes, c'est-à-dire avec autant d'hommes que de femmes. Et on s'aperçoit que c'est ce qui a permis cette discussion sur la parité depuis quelques années de renouveler ce mouvement féministe un peu endormi ou un peu en retrait, puisque c'est toujours par vagues qu'il a lieu depuis 150 ans et maintenant presque 200 ans. Et que de nous renouveler, c'est-à-dire que c'est devenu tout simplement une sorte de pot-pourri, ce mot de parité, pour y faire passer toute demande d'égalité, quelle qu'elle soit, et pas seulement liée aux espaces de pouvoir. Donc c'est ce qui a permis, comme un cheval de Troie, à travers dans ce cheval sont montées un certain nombre d'aspirations, de demandes, de ras-le-bol d'inégalité, qui n'avaient plus nécessairement à faire avec la question de la direction des affaires de l'État, de la prise de décision, comme on dit en langage européen, et du pouvoir de manière générale. Alors, la parité dès le départ, c'est bien ces deux choses. C'est bien cet objectif ultime de faire que hommes et femmes dirigent les affaires de la cité. Et puis, c'est au passage, on prend au passage tout ce qui est dénonciation, prise de conscience des inégalités d'aujourd'hui. Alors, c'est un outil, la parité. Alors, c'est d'entrée de jeu un outil, plus que peut-être un principe. Et c'est ce qui me permet de vous donner le premier niveau de discussion sur ce que peut être la parité. Certains, plutôt certaines, ont dit « Ah ben la parité, ça sera un nouveau principe. » Ça sera un nouveau principe, liberté, égalité, parité, disait le sous-titre de ce fameux livre « Au pouvoir citoyenne » Françoise Gaspard, Claude Servan-Schreiber et Anne Le Gall en 92. Et puis, d'autres disaient, si ce n'est pas le mot parité qui viendrait remplacer celui de fraternité, eh bien la parité, c'est le principe comme un au-delà de l'égalité, c'est un complément à l'égalité. Donc c'est ouvert la discussion de ceux qui disaient, face à des gens comme moi, qui disaient, ben voilà, c'est un outil formidable, ça nous montre, ça nous pointe du doigt l'endroit où l'égalité n'est pas encore faite, à savoir dans les lieux de pouvoir. Ça nous emmène au passage tous les autres espaces de dénonciation ou de prise de conscience d'inégalité. Et la discussion s'est ouverte sur est-ce un outil ou est-ce un nouveau principe de la démocratie comme de la République, plutôt de la République. Certains, certaines, certaines étaient pour énoncer la parité comme un nouveau principe. Pour ma part, il m'est apparu d'entrée de jeu, vous l'avez entendu dans ce que je viens de dire, que c'était son côté outil, ce côté habit de l'égalité, ce côté moyen pour fabriquer de l'égalité, ce côté moyen pour prendre conscience. Moi, je sais qu'une de mes premières utilisations du mot de parité, ça a été de me rendre compte, notamment dans le milieu de la recherche auquel j'appartiens, dans le milieu de l'enseignement supérieur, dès que j'allais à une thèse, à un jury, à un lieu de discussion, eh bien, les femmes étaient quasiment absentes. Et c'était une sorte de, je dirais, de filtre qui passait devant mes yeux et qui servait de révélateur aux situations auxquelles j'étais habituée depuis très très longtemps. Donc, vous l'avez entendu, moi, l'aspect révélateur me paraît foncièrement important. Face à cela, il ne faut pas nier, il faut prendre l'ampleur de ce qu'était la discussion sur la parité peut être un principe. Un nouveau principe. Alors, pour ma part, formée au concept traditionnel de la philosophie, ça ne m'apparaissait pas possible. Ça ne m'apparaissait pas possible d'abord parce que, tout simplement, je ne crois pas qu'on puisse ajouter quoi que ce soit à jamais au principe égalité. L'égalité se suffit à elle-même. Je ne vois pas ce qui s'ajoute à l'égalité. Je ne vois pas comment on peut commenter l'égalité si ce n'est par elle-même. Et que si la parité pouvait être un habit, pouvait habiller parce que c'était difficile ou parce que c'était une cristallisation ou parce que ça servait de révélateur, pourquoi pas. Mais en aucun cas, il n'y avait d'au-delà ou d'alternative à ce mot d'égalité. Voilà pourquoi, pour ma part, dans cette controverse, j'ai pris la position de critique de ce qui pouvait être l'énoncé d'un nouveau principe de la République avec la parité. Avec une formule qui m'a bien aidée et avec laquelle je continue à travailler, qui était une formule que j'avais inversée d'un titre, d'un opuscule d'Emmanuel Kant, qui dit que ce qui est vrai en théorie peut être faux en pratique. Mais moi, j'avais inversé la formule parce que c'est ça qui m'aidait à penser l'émergence de la parité, et c'était que ce qui pouvait être vrai en pratique pouvait peut-être être faux en théorie. C'est-à-dire que je n'allais pas essayer de fonder philosophiquement la parité, c'était pas ça l'enjeu, c'était pas ça mon problème, mais qu'en revanche, il est vrai que ça marchait. Et que si ça marchait, c'est que c'était vrai en pratique. Et que la question n'était pas de savoir si c'était bon ou mauvais, puisque ça marchait. Alors ça mérite quand même commentaire. Parce que si quelque chose peut être vrai en pratique et faux en théorie, c'est-à-dire si ce mot de parité n'apporte rien de plus que le mot égalité, mais si je peux me satisfaire de ce que ça apporte en pratique, ben il faut s'arrêter un petit peu là-dessus. Parce que pourquoi, au fond, on ne pourrait pas fonder philosophiquement la parité ? On ne peut pas fonder philosophiquement la parité, ben pour une raison très simple et que tout le monde a trouvée, c'est que si vous mettez à fonder le biologique, que le biologique fonde le politique, si vous mettez à fonder le politique sur la biologie, sur le biologique, ben ça ne marchera pas. Parce que le politique, c'est nécessairement une transformation comme une cristallisation chimique de la réalité. C'est-à-dire, nous créons une société, on a fait un contrat social, on crée une structure sociale pour que ça puisse prendre une forme humaine, de culture humaine, de civilisation, et c'est certainement pas un miroir que la nature tend à la société. Donc pour ce qui était de l'argument biologique, les femmes sont la moitié de l'humanité. Oui, les femmes sont la moitié de l'humanité. Si on se situe, non pas du point de vue de l'extérieur de la sphère du politique, mais de l'intérieur de la sphère du politique. Et c'est au fond un petit peu ce qu'a proposé, et ça je crois que c'est un débat ouvert. Donc moi, plutôt que de penser que on pouvait fonder philosophiquement la parité, je vais vous proposer d'ouvrir à ce que ça pourrait amener comme discussion philosophique à partir de maintenant, à partir du fait que ça a été vrai en pratique, c'est-à-dire utile, utilisable, et comme vous avez pu le voir, extrêmement fédérateur de mille et une sortes d'intérêts et d'enjeux, en tout cas dans la société française de ces dernières années. Alors, difficile d'aller chercher la naturalité de la société pour justifier le fait de parité, difficile d'ajouter un principe supplémentaire ou alternatif à l'égalité des hommes et des femmes, qui me paraissait suffisant en théorie politique. Alors, en revanche, il y a quelque chose que la parité me semblait mélanger de manière assez intéressante du point de vue de l'histoire, de l'expérience de l'histoire que j'évoquais dans le premier cercle de la controverse tout à l'heure, c'est le fait qu'au fond, la parité, c'est le produit de nos deux traditions politiques qu'on connaît bien depuis le 19e siècle, c'est-à-dire, et qu'on voit très fortement à l'œuvre dans toute l'histoire du féminisme du 19e et du 20e siècle, qui n'est pas monolithique, comme on le dit souvent, sorte de face à face, ce qu'on fait en général avec le féminisme anglo-saxon et notamment américain, et surtout pour décrier l'un par rapport à l'autre, etc. Tout ça est, à mon avis, de peu d'intérêt. En revanche, si on regarde de très près le fonctionnement du féminisme français, en tout cas pour celui-là que je connais pour ma part, on voit qu'il fonctionne sur deux pieds depuis la Révolution française et depuis le début de son histoire au XIXe siècle. Il fonctionne sur le pied droit de l'homiste, c'est-à-dire démocratie pure et abstraite, nous demandons nos droits, nous voulons les droits équivalents à ceux des hommes. On applique ce que vous avez, les droits de l'homme sont priés d'être les droits des femmes, comme disait déjà Flora Tristan, hein. On applique s'il vous plaît, c'est pour tout le monde, et puis il n'y a pas de... Et puis alors un certain nombre de lois sont demandées comme ça, les hommes ont des lois, nous on veut les mêmes. Bon, Ça, c'est une chose. Et ça passe en général par l'universalisme abstrait. C'est-à-dire, arrêtons de faire mentir l'universel. Pas difficile. Ça alimente un des combats qui n'ont pas toujours été aussi faciles que ce que je suis en train de dire. Mais voilà, ça, c'est la première jambe, ou le premier pied. Et puis, de l'autre côté, il y a le deuxième. Et ça va nous aider pour la parité. C'est que le deuxième, c'est une piste qui existe depuis Fourier et toute la suite, en passant par Marx et par les révolutionnaires et par les syndicalistes et par le mouvement ouvrier et par le socialisme, mais d'abord et avant tout par les discours des utopies. Et là, c'est très étonnant. Quand vous lisez les utopistes, ils ne parlent jamais de l'homme universel, ils ne parlent jamais de l'homme abstrait, et Marx aussi, ils disent toujours les hommes et les femmes. La tradition de l'utopie, la tradition de la révolution, elle n'est pas abstraite. Elle dit les hommes et les femmes. Il m'a semblé que le combat pour la parité avait d'une certaine façon réussi à unir ces deux traditions de pratiques politiques, féministes et pas seulement féministes, mais en l'occurrence la féministe, qui était la tradition universelle. Nous demandons des lois, parce que la parité, ça a toujours été une demande de loi. Nous demandons la transformation de la loi, nous demandons le changement de la Constitution ou une nouvelle loi. Et puis, la tradition utopiste et révolutionnaire, nous rêvons que les hommes et les femmes fassent la société qui est en train de se faire et qui sera aussi la société de demain. Voilà pour ce qui est, à défaut d'un fondement philosophique, un fondement historique, qu'on pourrait, ou un fondement d'expérience historique, qu'on pourrait apporter à ce combat pour la parité. Mais là où le débat va rebondir sur le plan philosophique, et à mon avis n'est pas fermé, c'est avec la façon dont, pour des raisons de pure cuisine constitutionnelle, le gouvernement français a été obligé, 1, de réviser la Constitution, 2, de réviser la Constitution à l'article 3, c'est-à-dire à l'article sur la souveraineté, c'est-à-dire l'exercice du souverain. On a introduit la modification de la Constitution, au départ, puisqu'à cette époque, donc, j'étais déléguée, j'ai suivi les choses assez près, donc, disons dans la cuisine elle-même, au départ, on s'est demandé si on n'avait pas changé un article de fonctionnement des partis politiques. Un article technique, puisqu'il fallait réviser la Constitution, puisqu'il y avait eu un arrêt du Conseil d'État au début des années 80 qui empêchait qu'on fasse des quotas pour les listes électorales. Donc la nécessité de la révision de la Constitution, ce n'était pas faire dans le grand principe, c'était qu'on était obligé de réviser la Constitution pour faire une loi. C'est la pure stratégie. Donc on est au plus haut de l'État et au plus haut de la question abstraite et constitutionnelle, mais c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Si on veut faire une loi, il faut changer la Constitution. Donc on commence par changer la Constitution. On se dit, on va changer la Constitution, on va changer un article technique. Mais le conseiller d'État, la conseillère d'État en l'occurrence, qui a le dossier en charge, remodifie ça autrement, pense que ça ne va pas, et propose la modification de l'article 3, celui sur l'exercice du souverain. Et voilà qu'on introduit dans l'exercice du souverain le favorise l'égal accès, et l'important, ce n'est pas favorise ou détermine ou conditionne, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais le légal accès aux mandats et fonctions. Voilà que les plus hautes fonctions, qui sont mandats et fonctions, qui sont là pour faire les affaires de la cité, eh bien, il faut qu'il y ait égal accès des hommes et des femmes. Et on met ça à l'article qui parle du souverain, de l'exercice du souverain, et au fond, on ouvre la question que je vous offre, et qui est qu'est-ce que l'exercice du souverain aujourd'hui et qu'est-ce que la souveraineté aujourd'hui? Car, pour ce qui est de la monarchie, on sait très bien comment fonctionnait le souverain monarchique. On sait très bien que c'était un roi, on sait très bien que c'était un individu, on sait très bien qu'il avait un corps, on s'est même posé des questions sur le corps du roi, on savait très bien qu'il représentait Dieu sur terre, pour ce qui est du monarque français en tout cas, monarchie de droit divin, en tout cas l'exercice de la souveraineté, dans la monarchie on sait ce que c'est. Depuis 2 siècles, l'exercice du souverain, via l'universel, c'était un neutre. Si on introduit de la différence des sexes, alors ça fait quoi? Non pas parce qu'on irait fonder la parité sur la différence des sexes, mais parce que c'est la question du souverain que maintenant nous devons discuter. Quel est ce souverain-là? C'est à la question philosophique à laquelle nous devons arriver, mais comme vous voyez, c'est par une affaire stratégique que nous y sommes venus. Mais je vais un peu vite parce que je ne voudrais pas m'empêcher d'aborder le deuxième point du deuxième cercle de la controverse que j'appelle la contradiction. Donc l'outil d'un côté et toute cette discussion fondamentale de voir pourquoi cet outil a si bien marché, pourquoi on a nécessairement besoin de cet outil parité pour parler de plein d'autres choses, et y compris de la présence des femmes dans les lieux de pouvoir. Mais il y a ce deuxième point pour moi important, qui est la question de la contradiction, et qui a beaucoup nourri la controverse, et que nous ne pouvons pas passer sous silence. La controverse a été nourrie par l'argument suivant, vous ne pouvez pas, et qui renvoie à l'universel de tout à l'heure, autant mon premier point sur l'outil renvoie à l'égalité, qui était le premier point de ma première controverse, c'est un outil pour faire de l'égalité, la parité, enfin telle est en tout cas la proposition que je fais, mais le deuxième point, c'est, j'ai dit que l'universel, on s'était contenté de jouer la sûreté de l'universel dans la première controverse, dans la deuxième, un autre argument apparaît qui est l'universel, il ne se divise pas en catégories. Et les femmes, c'est une catégorie. À quoi, évidemment, il est tout de suite répondu non, les femmes ne sont pas une catégorie puisque c'est la moitié de l'humanité. Néanmoins, ce n'est pas si simple, car de fait, avoir inscrit, c'est vrai, l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats et fonctions, l'article 3, à l'article de la souveraineté, c'est précisément délier les femmes des autres catégories de l'universel, de ce qu'on appelle les catégories de l'universel. Catégories de l'universel qui fonctionnent très bien. C'est ce qu'on appelle en général, dans les textes des déclarations depuis 1945, les sans distinction de. Sans distinction de race, de sexe, de religion, de langue, de nation, etc. etc. Je crois que la palme de l'énumération revient à la Convention européenne de 1950, où il y en a trois lignes. Mais en général, parfois, c'est sans distinction de race, de sexe, de religion. En général, c'est la plus banale. Donc, c'est une énumération que nous connaissons bien et qui met bien le sans distinction, qui met bien le sexe dans le sans distinction de sans distinction de, donc dans l'énumération des catégories de l'universel. Donc, le débat qui s'est ouvert, vous l'avez connu, vous l'avez entendu, c'est soit les femmes ne sont pas une catégorie de l'universel et elles n'ont rien à voir avec les autres catégories, soit c'est une catégorie de l'universel et alors, dans ce cas, elles vont représenter le danger identique à ce qu'on supposerait être le danger des défenses ou des combats catégoriels, à savoir, elles vont se replier sur une identité catégorielle, ce qu'on appelle le repli identitaire. Regardez d'ailleurs aux États-Unis, c'est affreux, telle catégorie empêche la catégorie d'à côté de vivre ou de respirer parce que elle réclame une sorte d'accès direct, c'est comme s'il y avait un accès direct, vous voyez, du particulier, c'est comme si on avait un schéma global qui serait comme ça, l'universel, les catégories de l'universel, et il y a des catégories de l'universel qui voudraient, en gros, s'approprier cet universel, dont j'ai dit que ce n'est peut-être pas une transcendance, mais qui reste bien quand même le référent global. Alors, on ne va pas jeter ce problème comme ça. C'est-à-dire qu'il est vrai que l'universel est fait de catégories. Sinon, il ment. Quand même, on a le XXe siècle derrière nous, un petit peu de réflexion historique. Il est vrai que les femmes ne sont pas une catégorie comme les autres. Ça, c'est sûr. Il est vrai aussi qu'on peut mettre la catégorie sexe dans différentes catégories. Ce qui donne, pour reprendre l'ensemble des déclarations, aussi bien la déclaration de l'ONU après la guerre, que la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, que la déclaration, que la convention, non pas la charte des droits fondamentaux, justement, européenne, qui n'a pas encore eu lieu. Bon, il faudrait distinguer, j'ai pas le temps, mais vous trouverez dans tous ces textes que les constitutions nationales, et notamment la constitution française de 1946, vous allez vous trouver devant cette double possibilité, parfois vous avez les deux, parfois vous en avez qu'un, qui est, soit on dit dans le préambule, les femmes et les hommes sont égaux, il y a un principe d'égalité des sexes, et il faut que vous sachiez que par rapport à la Déclaration des droits de l'homme, et par rapport à nos deux siècles d'histoire, il est nouveau, après 1945, qu'on énonce le principe égalité des sexes. Donc on va le trouver, préambule de la Constitution de 1946, Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons l'affirmation de l'égalité. C'est ce que nous voulons pour la Charte des droits fondamentaux européenne qui doit se signer à Nice en décembre prochain, sous présidence française, qui est en train de se fabriquer en ce moment à l'Europe. Bon, mais vous avez aussi, c'est la Convention de 1950, c'est d'autres textes, c'est le fameux sans distinction de, et puis les articles aussi, qui, donc nous avons bien, là encore deux pieds, le catégoriel et le non catégoriel, pour parler de la question homme-femme. Moi, je vais vous laisser sur ce que j'appelle une contradiction. Alors, cette contradiction, elle n'est pas seulement théorique, elle est aussi très pratique. Me souvient une des interrogations l'année dernière de personnes avec qui je pouvais discuter de la parité qui était, bon, très bien, Les femmes, vous voulez la parité, ou bien on va changer la constitution, puis faire une loi pour appliquer la parité. Mais vous ouvrez la porte, ça va être contagieux. Ça va être contagieux. Il y a d'autres exclus qui vont vouloir aussi qu'on s'intéresse à leurs exclusions. La pente est savonneuse, me dit un copain. Alors je lui ai dit, écoute, peut-être elle est savonneuse, mais c'est pas une pente. Alors, quand je lui réponds ça, qu'est-ce que je veux dire ? Peut-être elle est savonneuse, mais c'est pas une pente. C'est-à-dire, si, tout d'un coup, l'automne dernier, on s'aperçoit qu'on manque de noirs à l'Assemblée nationale ou dans la présentation des journaux télévisés, c'est-à-dire dans les lieux de pouvoir, et si le débat sur la parité a, comme ça, fait contagieux, vous savez, comme, excusez-moi de l'image, pourquoi qui me vient, vous avez les poux qui sautent d'une tête à l'autre sur les têtes d'enfants à l'école, mon Dieu, je ne pense pas que ça mette en péril l'universel. Donc, que ça soit savonneux peut-être. On a vu, il y avait un éditorial étonnant du journal Le Monde la semaine dernière, exactement ça, à propos du vote des étrangers. Il disait, on a voté la parité, très bien, on ne va pas voter le vote des étrangers, mais c'est pas bien, mais il y a un rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport. Non, la première colonne de l'éditorial du Monde, dans ces jours de colonne, c'est « il n'y a pas de rapport ». Puis la deuxième colonne, c'était « oui, mais enfin quand même, on ne vote pas le vote des étrangers ». Bien sûr, il y a un rapport sans avoir de rapport. Donc on est bien sans cette difficulté des catégories de l'universel, du fait que la différence des sexes, ce n'est pas une catégorie de l'universel comme les autres, puisque c'est la moitié de l'humanité, mais qu'il y a une sorte de contradiction dans cet universel, dont au fond, moi, avec mes côtés stratégiques, outils et pratiques, bah avec lesquels je vais essayer de vivre. Et c'est vrai qu'il est bien entendu que ça n'a pas de rapport, mais parfois il y a des contiguïtés. Et vous verrez que dans toute la tradition des textes philosophiques, depuis l'Antiquité, j'avais trouvé qu'au fond, on ne pensait jamais à la catégorie femme toute seule. J'appelais ça les amis de nos amis. C'est-à-dire que la catégorie femme arrivait toujours, soit avec les esclaves et les enfants chez Aristote, soit avec les fous et les enfants chez Spinoza, soit avec le peuple et la race chez Kant, etc., etc., soit avec le juif à la fin du XIXe siècle, soit avec l'homosexuel aussi, soit avec le colonisé dans les années 60, etc., etc. C'est-à-dire, donc c'est une question philosophiquement difficile et qui excède largement la question de la pensée démocratique. Donc, prenons pour comptant que c'est vrai que l'énoncé de l'égalité des sexes est différente par rapport aux autres catégories de l'universel. Premier point. Deuxième point, n'ayons pas peur des catégories de l'universel. Moi, je crois qu'il n'y a jamais de repli identitaire, en tout cas, pas ici. Je propose en général de parler de déploiement identitaire plutôt que de repli identitaire. D'ailleurs, prenez la parité. La parité, ce n'est pas les femmes qui voulaient rester entre elles pour faire un petit bout de pouvoir. C'est simplement les femmes qui voulaient aller dans les espaces de pouvoir, là où ça se passe, donc se déployer dans les espaces de pouvoir. J'appelle ça typiquement du déploiement et non pas du repli. C'est ce côté épouvantail repli identitaire me paraît avoir des résonances philosophiques finalement très pauvres et très mesquines. En revanche, qu'il y ait une contradiction dans le chemin de l'universel, oui. Et je conclurai là-dessus, si vous me laissez encore quelques minutes, je conclurai là-dessus, parce que ce problème que je vous laisse ouvert, je vais vous le laisser ouvert très très concrètement tout de suite. Nous savons, dans ce pays de la France, introduit la dualité des sexes dans la pensée politique. Nous avons, à travers le débat sur la langue aussi, qui est une affaire de pouvoir, qui n'est pas née par hasard en même temps que la politique, introduit l'idée d'une parité linguistique, c'est-à-dire qu'il faut que la langue exprime aussi les deux sexes. Pour ma part, j'introduirais volontiers aussi le concept de parité domestique, c'est-à-dire de débat démocratique dans l'espace familial, bref, de tous ces adjectifs qu'on pourrait accoler à la parité pour faire reconnaître que les deux sexes travaillent la construction de la société. Mais j'attirerai votre attention sur le fait que cette émergence de l'image sexuée du politique intervient dans nos sociétés au moment où, depuis deux ou trois décennies, et aujourd'hui plus que jamais, nous avons complètement asexué le social. Qu'est-ce qu'une famille monoparentale aujourd'hui ? C'est ce qu'on appelait dans les années 60 une fille-mère, dans les années 70 une mère célibataire, mais aujourd'hui c'est une famille monoparentale. Pourquoi ? Parce qu'il fallait cesser le stigmate sur la fille mère et la mère célibataire, on a choisi un terme neutre, on a choisi un terme abstrait. Sauf que maintenant, quand vous êtes dans une discussion ministérielle, vous pouvez passer des heures à discuter des familles monoparentales, il n'y a plus une personne qui sait qu'il s'agit pour plus de 80% de femmes. Pareil pour le temps partiel. Pareil pour les violences et pour le chômage. La sexuation, l'apostrophe, la sexuation du social est devenue une vérité de l'analyse du social et de nos sociétés très importantes. Donc, vous avouerez que c'est curieux. Nous sommes là dans des contradictions. Nous venons de faire apparaître la dualité des sexes à un moment de la pensée du social et de la réflexion sur le social où tout a été asexué pour de bonnes raisons politiques et éthiques, mais qui s'avéreront politiquement pas nécessairement positives. Voilà, si j'ai pu vous donner le sentiment qu'au fond, et ce sera cette fois-ci mon ultime conclusion, qu'à trop vouloir faire de la théorie dans le féminisme, on manque son objet. Que la théorie, elle naît de la pratique parce que c'est un objet difficile. Non pas, on pourrait dire ça de tout objet, vous allez me répondre, mais avant que vous me répondiez, je vous dis tout de suite, ce n'est pas parce que c'est vrai de tout objet, c'est parce que cet objet de pensée est particulièrement difficile. Et si nous voulons sortir de l'opinion et équilibrer l'opinion avec la science grâce au savoir, alors il faut passer à travers ces petits moyens techniques, stratégiques et matériels qui sont la tentative de faire avancer ce combat pour l'égalité et qui, à mon avis, nous donne un aperçu philosophique beaucoup plus large et beaucoup plus approfondi que les grands principes qui nous ont menés seulement sur des débats un peu déplacés par rapport à l'histoire. Au fond, il est difficile de penser la question des sexes, y compris dans des moments comme le nôtre, où nous avons, d'une certaine façon, la chance, en France, d'avoir eu un vrai débat politique grâce au combat pour la parité. Dès qu'on va à l'étranger, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe, c'est étonnant, alors que nous pouvons, nous, être Français sensibles à tout ce qui reste d'inégalitaire dans les rapports hommes-femmes, c'est étonnant de voir à quel point, pour le coup, des étrangers se sont tournés vers ces débats que nous avons eus et que nous avons encore aujourd'hui sur l'égalité et le pouvoir entre les sexes. Je vous remercie.
Bon, on va vous passer des micros, vous allez pouvoir poser quelques questions. Où sont les micros? Ils arrivent. Il y a un monsieur là devant moi.
Là, vous n'avez pas de...
Si, ça y est. Non, c'est parce qu'ils arrivent pas très près.
Attends deux secondes, juste le temps que je bois un verre d'eau.
Allez-y.
Oui. Allô. Ici. Coucou.
Vous venez de parler.
Ah non. Je crois que c'est.
Coucou.
Vous venez de parler.
Ah non, pardon, excusez-moi, je croyais que c'était monsieur qui avait le micro. Allez-y.
Oui, juste une remarque sur. Vous avez beaucoup parlé de la strate pouvoir et pouvoir politique, entre autres. Ce que je voudrais dire, c'est que, bon, ici, on est. Je suis très content d'être ici parce que c'est un endroit où il y a des femmes, des hommes, etc., en quantité à peu près égale, où l'intelligence parle par votre bouche. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que depuis le début, on est à 140 conférences. Il y a eu, je crois, 14 ou 15 conférencières, ce qui ne fait pas beaucoup, dont 4, je crois, sur le problème de la famille. Ce qui fait.
Oui, c'est vrai.
Il y a également ici, là, 5 personnes de l'Université de Tous les Savoirs. Il y en a 4.
Nous sommes 6, il y a 3 femmes, 3 hommes.
J'en vois 5. Hein. La seule femme, c'est la présentatrice, comme à la télé dans les années 50.
Ah non, il y en a 2 en haut.
Oui, mais là, il y a aussi l'équipe. Des appariteurs qui sont des hommes. M'a donné.
Oui, mais donc, l'équipe est très féminine.
Je compte là simplement les gens que je vois il y a quatre hommes qui ont un boulot technique, c'est-à-dire avec des caméras, avec des tas de choses, et il y a une femme qui présente. Je voudrais simplement dire que en quittant la sphère du pouvoir et du pouvoir politique en particulier, on se retrouve dans les définitions de Marx, hommes et femmes, parce que lui, il parlait des ouvriers. Il ne parlait pas
de l'homme générique.
Voilà. Et il ne parlait pas de la classe pouvoir. Il parlait de la classe productrice.
Vous savez, la domination masculine s'exerce absolument partout.
Tout à fait. sauf aujourd'hui, ou plutôt
je crois que là-dessus.
Un peu moins dans la sphère politique et dans la sphère du pouvoir politique.
C'est une remarque. Je crois qu'il y a un monsieur.
Oui, il y a monsieur en bas. Là. Oui.
Dans le domaine, enfin, vous venez de parler de faire avancer le combat pour l'égalité. Ce qui m'intéresse surtout, c'est faire avancer le combat pour l'égalité dans le couple, parce que la relation n'est possible que dans l'égalité. Et je trouve que justement l'État met un frein à l'égalité dans le couple. Le problème qui me préoccupe le plus, c'est la non-transmission du nom de la femme aux enfants. Et je vis assez mal à cause de ça, donc j'aimerais que ça puisse avancer.
Moi je voudrais souligner l'importance de votre question, parce que là il faut, je veux dire, on a beaucoup parlé de, enfin on évoque toujours la question française par rapport à la parité. Cette question est typiquement française, car si vous vous mariez en Allemagne, vous avez des choix de patronyme, de même en Suisse, pays Dieu sert et de rogade, est en train de changer, de même l'Espagne, etc. Donc c'est typiquement français la transmission du nom du père. C'est pas que c'est réglé partout ailleurs, mais je veux dire, ça fait partie de l'aspect très, disons, symbolique masculine de la réalité française, la question que vous soulevez, je ne peux qu'aller dans votre sens.
Voilà, il y a une dame là.
On aurait pu souhaiter que la question de la parité... disons, débloque aussi ce sujet-là. Bon, non, oui, c'est pas...
Je tiendrai beaucoup, Madame Fraisse, que vous nous dites votre expérience, votre avis sur un problème très grave qui concerne quand même la Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances en Europe. Les rapports pour de nouvelles actions dans les domaines de la lutte contre les traites des femmes. Et donc, contre la traite des femmes. Je pense que vous étiez là quand ces rapports étaient présentés. J'étais beaucoup à votre avis. Ça aidera beaucoup l'égalité entre hommes et femmes, entre autres.
Je vais être très rapide. Le rapport, effectivement, sera voté la semaine prochaine en séance plénière au Parlement de Strasbourg. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, pour ma part... Il y a un problème au niveau européen sur la question de la traite des femmes, dont nous interviendrons la semaine prochaine là-dessus aussi à Strasbourg, qui est la façon dont la prostitution est appréhendée. Peut-on parler de la traite des femmes sans parler de la question de la prostitution? C'est ce qui agite notre débat aujourd'hui au Parlement européen, et notamment avec l'expression prostitution forcée. Alors, deux choses sur la traite des femmes. D'abord, elle est en croissance accélérée en Europe, après la chute du mur. C'est effectivement le commerce qui rapporte le plus que la drogue. C'est moins dangereux. Il y a donc une forte augmentation de la traite des femmes du point de vue de la mafia, c'est-à-dire en termes mafieux. Et l'Europe va tenter d'intervenir sur cette question-là, et c'est bien. Donc, de ce point de vue, c'est positif. Ce qui est négatif, c'est l'augmentation de la traite. Ce qui est positif, c'est que l'Europe décide de s'en occuper. Ce qui est moins positif pour moi, c'est que nous n'arrivons pas à sortir de cette reprise de l'expression prostitution forcée, quand pour ma part, j'ai proposé au Parlement qu'on dise exploitation sexuelle, pour que nous ne tranchions pas. Parce que qui dit prostitution forcée sous-entend prostitution libre. Et je dois dire, moi, en tant que parlementaire, je considère que je n'ai pas à trancher entre la liberté et la contrainte en matière de prostitution, ni les États. Mais tous ces débats-là auront lieu la semaine prochaine. Il y a d'ailleurs un colloque à l'UNESCO, comme vous le savez peut-être, le 15 et 16 mai, au même moment, et nous votons le rapport jeudi prochain au Parlement. J'ai refait un amendement pour remettre exploitation sexuelle dans le vote en session, après le vote en commission.
Les colloques s'appellent les peuples de la vie.
Voilà, qui est donc à l'UNESCO. Donc on va passer. Alors écoutez, ça c'est pas mon problème, c'est pas moi qui l'ai organisé, si je puis dire. Je fais passer l'information. C'est ce qui a lieu à Paris la semaine prochaine à l'UNESCO.
Oui, il y a une deuxième question.
S'il vous plaît. Merci. Si je peux me permettre de citer Françoise Giroud, qui a été une des premières femmes à prendre le pouvoir féminin, elle a affirmé que justement c'est la mère qui fait l'homme. Et donc, est-ce que justement, quelque part, il n'y a pas une faille dans cet éveil de l'homme, de la mère qui a éveillé l'homme, pour que l'homme soit si fermé justement au genre féminin et que il y ait ce soit nécessaire donc de vivre ce combat? Parce que François Giraud n'adhère pas au combat de la parité. C'est quelque part, je pense que peut-être, lorsqu'il y a équilibre dans cette part de féminin en l'homme, il y a une ouverture naturelle. Et que cette part du féminin est peut-être à donner ou à éveiller par la femme.
Vous dites énormément de choses dans Excusez-moi. Votre question. Premièrement, j'espère que c'est moi clair je ne citerai pas Françoise Giroud sur la mer, parce que bien d'autres l'ont dit avant elle. En général, je la cite sur autre chose. Ce qui est plus important, c'est que elle dit en général que l'égalité des sexes sera réalisée quand une femme incompétente sera un poste de pouvoir. C'est une phrase que j'aime beaucoup de Françoise Giroud. Mais pour le moment, la question de la maternité est une chose, c'est-à-dire que, parce que la mère éducatrice, c'est une histoire qui remonte à bien d'autres siècles que les quelques décennies de la fonction de Françoise Giroud il y a 30 ans sous Giscard d'Estaing. Mais c'est une question importante. Ça, c'est une première question. La deuxième chose que vous avez soulevée comme problème, c'est au fond la question de l'altérité. Et c'est ça la question. Si j'insiste si lourdement, pendant tout mon exposé, si j'insistais sur lourdement sur la difficulté à penser les sexes, c'est parce qu'on est pris dans cette altérité qui est l'altérité première de la société. Je veux dire, c'est à partir de cette altérité que l'humanité s'est construite. Et s'est construite comme pensée aussi. Donc, que cette altérité ne puisse pas se résoudre d'un coup de baguette magique, certainement qu'elle soit l'affaire d'une dissociation permanente et d'une non-pensée. Un autre exposé, je vous expliquerai, ou en tout cas, je pointerai le fait, à défaut de l'expliquer, ce serait plutôt pointer le fait, que c'est précisément cette incapacité que nous avons à penser les sexes, parce que c'est ce à partir du quoi l'humanité s'est pensée, que le fait que nous soyons différents. Alors que ça soit le gouffre dans lequel s'engouffre toutes sortes de projections sur l'autre sexe, moi, je veux dire, je veux bien que les mères fassent leur boulot, elles n'en peuvent mais. C'est vrai qu'on aimerait que parfois elles le fassent autrement, mais les pères aussi. Alors, elles n'en peuvent mais, ces mères.
La mère pour le féminin.
Je sais pas, quelqu'un. Oui, il y a une jeune femme là.
Merci. Moi, j'ai d'abord un témoignage, ensuite une surprise, un étonnement. C'est moi, sur mon CV, je marque « je suis chef de famille ». Et je pense que la linguistique, et je suis aussi formateur, et je suis aussi psychologue du travail. Et tous ces termes-là ne revêtent pas. Soit je dis quoi, formatrice, ça ressemble à quoi, formatrice?
Ça existe en français.
Oui, mais
ça c'est pas difficile. Oui.
Je suis d'accord avec vous.
Non. Ça ressemble à formatrice.
D'accord. Non, attendez. Attendez. Vous permettez que je précise, il y a la linguistique et il y a le langage des organisations et des entreprises. Madame,
mais laissez-la parler.
Oui, s'il vous plaît.
Je suis tout à fait d'accord sur le combat de la langue. C'est un débat qu'il faut mener. Il est mené aux États-Unis et le combat linguistique.
Ah non, il est mené en France d'abord.
En France d'abord.
Ah oui.
Michel Perrault disait que, mais peut-être elle ne s'investissait pas dans ce débat-là en ce moment. Donc, et la surprise, l'étonnement, c'est que la France est un pays, bon, vous le disiez, gouverné par les hommes, hein, et la représentation féminine est très faible. Or, le symbole de la France, c'est Marianne, qui représente quand même la victoire. Et je m'étonne toujours qu'il y ait une sorte, de mascarade, où les mots ne sont encore une fois pas en accord avec les actes.
Ah, c'est plus compliqué que ça, mais je peux aggraver la situation encore. Hein. Il n'y a pas que la Marianne... Il n'y a pas que la Marianne qui représente la République, la vérité, la justice. Je veux dire, il y a un certain nombre de grandes idées. Et puis, vous savez, on dévoile la vérité, puis la vérité drapée. Et puis, on n'a même pas besoin de la démocratie et de la République pour avoir des problèmes avec les incarnations symboliques, souvent féminines, quand la réalité est... bien sûr, on pourrait même aggraver la situation en disant que la République a eu une incarnation féminine pendant que c'était seulement les hommes qui devenaient des citoyens, etc., etc. Donc, on peut aggraver la situation. Quant à la question de la langue, qui est récurrente et qui avance, elle est très intéressante parce que c'est pour ça que je parle de parité linguistique, parce qu'elle a vraiment, redémarré en 97 quand il y a eu un certain nombre de femmes ministres nommées par ce gouvernement. Et elles ont dit, nous, on va dire une ministre. Point. Et toute cette querelle qu'il y a eu depuis 2 ans, qui est typiquement, pour le coup, sur ces deux dernières années, plutôt assez française, plutôt assez liée au débat politique, plutôt assez liée au débat sur la parité, est très intéressante parce que vous aviez 10 ans plus tôt, parce que le ministère d'Yvette Roudy en personne avait lancé une commission avec Benoît de Groult qui avait eu une circulaire, mais qui n'était pas portée par un contexte politique, ça n'avait rien donné. Circulaire qui, dès qu'elle a été réactivée par un contexte, elle a été elle-même réactivée par le politique, et c'est bien parce que la langue est une affaire de pouvoir, c'est à ça que je voulais en venir, c'est-à-dire qu'une cuisinière, vous n'avez aucun problème entre le meuble et la personne. Tandis que pour d'autres fonctions, vous avez des problèmes. C'est donc que c'est par le biais du pouvoir. Vous voyez, quand je disais abstraitement tout à l'heure, la question de la parité, il n'y a pas de femmes à l'Assemblée nationale, ça déclenche toutes sortes de débats, notamment celui-là, notamment la question de la langue. Et c'est vrai que ça a énormément bougé en l'espace de quelques années, ces derniers temps. Quand on disait chercheuse, comme je le faisais dans les années, milieu des années 80, on me regardait toujours en disant « tu fais la tête chercheuse ?» Non, je suis une chercheuse. Mais ça paraissait bizarre, tandis qu'aujourd'hui c'est d'une grande banalité, mais tant mieux. Vous savez, les féministes... Enfin, la société, il y a une discussion dans les années 1880 sur le terme consoeur. Les femmes ne veulent pas se faire appeler consoeur. Ça ne pose pas de problème pour nous aujourd'hui de parler de consoeur, on n'en parle pas beaucoup. Mais vous voyez, c'était le frère, sœur, question de la fraternité, très importante, plus réelle que souvent symbolique. Bien, la question de la langue revient avec la question du pouvoir. Et vous, ça a énormément bougé depuis 2 ans, ça devrait bouger encore plus. Le plus drôle... Pardonnez-moi de citer toujours la même source, on va croire que je suis payée pour, mais si je prends les journaux, et notamment Le Monde, c'est assez amusant de faire une analyse ligne à ligne. De temps en temps, ils sont féminins, pourtant c'est eux qui, en août 97, ont plutôt commencé la féminisation des noms politiques. Et de temps en temps, ils sont masculins, et dans un même article, on peut avoir les deux. Il y a un laboratoire en ce moment de la féminisation de la langue. Moi, je dis plutôt emploi du féminin, parce qu'on n'est pas en train de féminiser la langue, simplement d'employer le féminin dans la langue. Il y a là un laboratoire de la langue française extraordinaire. Et d'ailleurs, les premiers, les plus intéressés, c'était d'abord les linguistes, ravis qu'enfin la langue bouge. C'est-à-dire, c'est pas madame, je crois, qui me donnera tort. Les linguistes sont ravis que la langue bouge. Et la langue bouge, vous pouvez dire formatrice. Je veux dire, ça me pose... Sur votre CV, pas seulement, je veux dire, verbalement.
On a une question là-haut.
En carrière, en disant formatrice que responsable de formation, qui ne sont pas les mêmes strates non plus. J'ai un complément de question. Que pensez-vous de la loi sur l'égalité de traitement, de salaire, d'évolution de carrière, etc., qui existe, mais qui n'est jamais appliquée dans les faits?
Non, elle était incitative et non pas répressive, cette loi. Ça, c'est, mon avis, le sujet principal. Et si la parité peut aider à ce qu'on repose la question de l'inégalité économique et professionnelle, je serais vraiment très, très contente. Mais c'est vraiment... on va laisser les autres questions.
Alors, monsieur... Là-haut, on a quelqu'un.
Je constate qu'il y a beaucoup d'hommes quand même dans l'Assemblée, et la question se pose de savoir s'ils sont là par curiosité ou s'ils se sentent vraiment impliqués, concernés profondément par cette question. À mon avis, ils sont là simplement par curiosité. Je vais m'expliquer pourquoi. Très rapidement, je vais aller droit au but. En disant quelque chose à laquelle personne ne s'attend, c'est que les femmes sont déjà au pouvoir. Je m'explique. C'est pas une question de 10% qu'il faut faire monter jusqu'à 50% dans tel ou tel domaine. Ça, c'est pas du tout le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que les femmes sont au pouvoir. Pourquoi ? Parce que depuis 1965, le taux de fécondité a commencé à baisser en France, ça correspond à la pilule. 1975, le taux de fécondité est tombé en dessous de la reproduction de la population, c'est-à-dire en dessous de 2 enfants, ça correspond au vote de l'avortement. 5 millions de Français ont été tués dans le ventre de leur mère,
un peu de tenue.
Il faut que vous soyez bon.
À ce rythme-là,
s'il vous plaît, monsieur.
À ce rythme-là, dans 25 ans,
s'il vous plaît, allez-y, répondez.
vous laissez finir vite.
À ce rythme-là, dans 25 ans, le peuple français
aura cessé d'exister. Monsieur, on va passer.
Est-ce que vous me laissez répondre ?
Voilà,
s'il vous plaît, est-ce que je vais
Je constate que pendant 1500 ans, lorsque les hommes étaient au pouvoir...
Laissez la dame Fraisse répondre, s'il vous plaît.
Pendant 1500 ans, les hommes au pouvoir...
Non, mais s'il vous plaît, on a compris, merci. S'il vous plaît, écoutez. Voilà.
Écoutez, moi, vous me donnez l'occasion de prendre la parole sur beaucoup de sujets. Alors, vous savez, puisque vous faisiez des prospectives, moi, je vais reprendre la question qui vient d'être posée sur l'égalité professionnelle. Il y a 150 ans, une ouvrière gagnait 50% de moins qu'un homme. Un franc pour les femmes, 2 francs pour les hommes, en gros, ça pouvait être. Mais aujourd'hui, on en est encore, l'inégalité salariale est encore autour de 25%. Donc, en 150 ans, on a avancé à un rythme que vous avouerez assez suffisamment d'escargot pour que on puisse quand même réfléchir à ce que c'est que le pouvoir des femmes. Elles sont bien loin de l'égalité professionnelle. La première chose aussi, je voudrais dire par rapport à votre intervention, c'est que vous avez parlé au nom de tous les hommes qui sont ici. Je veux dire, s'approprier la pensée de toute une catégorie de présents dans une salle est une attitude qui, pour ma part, avec laquelle je serai en désaccord. Par ailleurs, soyons maintenant plus sérieux, pour ce qui est de la question du pouvoir des femmes et du pouvoir des hommes. Alors là, c'est un sujet très important. Le reste l'était aussi, mais c'est un sujet très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a toujours dit les femmes n'ont pas besoin du pouvoir politique parce qu'elles ont l'autre pouvoir. Il y a même une catégorie que j'appelle un concept politique qui s'appelle l'influence. À la fin du 18e ou au début du 19e, on dit les femmes ont l'influence, les hommes d'accord, les hommes ont l'exercice de la souveraineté ou l'exercice du pouvoir, etc., mais les femmes ont l'influence. Alors ça peut être l'influence de l'ancien régime, ça peut être l'influence des salons républicains, ça peut être l'influence de la maîtresse, ça peut être l'influence de l'oreiller, ça peut être l'influence de la mère de famille, ça peut être l'influence de celle qui va former le citoyen. De toute façon, ça s'appelle la catégorie influence et on peut dire ça équilibre l'absence de pouvoir qui par ailleurs existe dans la sphère publique. Non, ça ne marche pas. Oui, ça peut être de pouvoir. Oui, les maires peuvent avoir du pouvoir, y compris. Oui, il existe des dominés qui ont du pouvoir. Donc, il faut être très compliqué et très subtil quand on fait l'analyse de la domination masculine et de la résistance féminine. Ça, oui. Mais ça fait partie, là encore, de catégories intellectuelles que nous avons appris à avoir en notre possession, qui est de la dialectique et de l'analyse de la domination et de la résistance et des pouvoirs des uns et des autres. C'est compliqué. Mais certainement, on ne fera pas dire, parce que ça, c'est éculé, puisque les femmes n'ont pas besoin du pouvoir politique, puisqu'elles ont le pouvoir ailleurs. C'est éculé. Quand je dis éculé, j'emploie un mot grossier, c'est-à-dire, c'est quelque chose, ce n'est plus possible de réfléchir la République, la chose publique, la res publica, avec des arguments qui, voyez, pour moi, relèvent de l'opinion, au lieu de relever de la science. Il y a des endroits où se prennent des décisions. Et ce n'est pas pour rien que le langage européen dit prise de décision pour pouvoir. Moi, j'ai d'autres mots, j'ai gouverné, j'ai représenté, j'utilise d'autres concepts. Mais prise de décision, ça dit bien ce que ça veut dire. La famille aussi est un lieu de prise de décision. Donc, il peut y avoir de la parité domestique comme de la parité politique. Et moi, je défendrai désormais le fait que aussi dans la famille, il faut débattre et qu'il y ait des problèmes de pouvoir et des lieux des problèmes et des solutions de pouvoir. Et que ça devient intéressant d'en parler comme ça. Mais ne jouons pas un pouvoir contre un autre, c'est apolitique et c'est ahistorique. Voilà.